Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Comment l'histoire raconte l'Afrique ? Au début des années 1960, au moment où le continent africain gagnait son indépendance, le mouvement politique et social qui a caractérisé cette période a été accompagné par un autre mouvement, appuyé sur le premier. C'est un mouvement intellectuel très largement soutenu par des intellectuels africains, historiens, linguistes, anthropologues, archéologues peu nombreux, mais archéologues tout de même parmi eux. Ils ont conçu ce projet gigantesque qui, à l'heure d'aujourd'hui, est unique dans le monde, puisque l'Afrique est le seul continent dont les intellectuels, dont les savants ont réussi à écrire une histoire générale. Cette histoire aujourd'hui est en quelque sorte en révision, en remise sur le chantier, grâce à une nouvelle génération d'historiens africains et non africains, grâce aussi à une sorte de prise de conscience, à une sorte de sursaut intellectuel et politique qui a permis de redéfinir les frontières de plus en plus larges de ce que nous appelons l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui Augustin Holl, qui est le président du comité scientifique, c'est un peu long, président du comité scientifique du 9e volume de l'Histoire générale de l'Afrique, c'est-à-dire ce volume qui succède aux 8 premiers, qui s'arrêtaient aux années 70-80, qui prétendait au départ réviser les connaissances, mais qui s'est trouvé obligé en quelque sorte de reprendre de fond en comble ses connaissances, à la fois vers le haut, vers l'amont. Nous l'avons vu dans une précédente émission consacrée essentiellement à l'apport de l'archéologie et de l'anthropologie, et qui aussi a été obligé de revoir les périodes plus récentes. Faut-il parler de l'Afrique continent ou faut-il élargir l'Afrique aux dimensions du monde ? Et faut-il s'arrêter aux périodes qui relèvent de l'histoire proprement dite, avec cette distance que les historiens tiennent à établir entre leur temps à eux et le passé, ou faut-il considérer que les dynamiques d'aujourd'hui participent d'une histoire que nous pouvons étudier ? Alors, commençons par cette question. Par rapport à l'Afrique, c'est quoi l'Afrique finalement ? Est-ce que c'est ce continent massif ? Ou est-ce qu'il faut dire que l'Afrique se trouve aussi en dehors de l'Afrique ? Pourquoi et comment ?
Très subtil, il faut faire des distinctions. Les individus vivant sur ce continent se sont répartis dans le monde par différents processus à différents moments de l'histoire humaine. Donc l'Afrique, par des conventions de dénomination géographique, et cette masse continentale à cheval sur l'équateur qui commence en Méditerranée et finit à la pointe de l'océan Indien, l'océan Atlantique, le long des côtes de l'Afrique du Sud. Donc ça fait l'exégèse du lexème Afrique, disons, acceptant que c'est cette masse continentale qui a été baptisée de cette manière-là, puisqu'il y a le nom n'est pas la chose. Donc la dénomination Amérique, par exemple, n'a rien à voir avec Amerigo Vespucci, dont le nom a été donné à toute la masse continentale. En revanche, les individus vivant sur cette masse continentale à partir de l'évolution la plus ancienne des espèces humaines se sont répandus dans le reste du monde en deux grands mouvements, et dont le monde a été peuplé à partir du continent africain. Mais cette première phase-là est une phase d'expansion de l'espèce humaine. Et il y a eu des phases beaucoup plus récentes qui peuvent quand même remonter au-delà de l'antiquité classique gréco-romaine, où des individus partis du continent africain se sont insérés dans des populations des pays non africains selon des processus différents. C'est ce qu'on appelle des diasporas. Donc la différence entre expansion initiale et diaspora, c'est que dans l'une, les terres vierges sont occupées par une population en expansion, et la diaspora, c'est quand une population nouvelle, par différents processus, s'intègre dans des zones déjà occupées par d'autres populations. Donc l'enjeu de l'histoire générale de l'Afrique sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est ce que nous avons résumé dans deux mots, c'est l'Afrique globale, c'est-à-dire liée l'histoire du continent à l'histoire des Africains qui se sont répandus dans le monde et essayer de retrouver les traces de ces Africains-là dans différentes parties du monde. Et vous serez surpris par les trouvailles qu'il y a. Et il y a des communautés africaines en Inde, et il y en a eu en Chine, et il y en a eu dans le monde turc, et il y en a eu en Iran, et leurs descendants sont bas, et certains en sont conscients, d'autres le sont beaucoup moins. Et donc il s'agit de cartographier cette répartition des Africains, et vous avez tous entendu parler de la traite atlantique et de la traite orientale, qui ont aussi procédé à la diffusion de populations africaines, cette fois-là de manière certainement involontaire, mais au travers de l'Atlantique. Donc la traite atlantique est la plus grande diffusion de populations d'origines africaines vers le monde occidental. Et cela a créé une configuration totalement nouvelle de la répartition des cultures humaines sur la planète. Donc, relier toutes ces dynamiques-là à la dynamique continentale contemporaine est aussi un des enjeux de l'Union africaine actuelle, puisque elle a dû créer un septième district ou bien une septième région qui intègre les diasporas africaines, surtout de la zone des Caraïbes et des Amériques.
Professeur Augustin, il faut venir quand même à des questions de polémique aujourd'hui. Tout le monde a pu voir les images qui montrent comment les difficultés du continent africain, l'appel peut-être exagéré du bloc occidental, fait que beaucoup d'Africains essaient de sortir du continent pour aller vers la Méditerranée et au-delà. Et on voit apparaître des travaux ou des prises de position pour dire que les historiens ont exagéré l'importance de la traite entre guillemets atlantique, que avant les Européens et aujourd'hui encore, ce sont les, alors on ne sait pas comment les appeler, on dit les Arabes, on dit les musulmans qui ont été les grands négriers. Est-ce que pour l'historien, ce genre de comptabilité macabre pour savoir qui a fait le plus de mal et qui a déporté le plus de gens, est-ce que ça a un sens dans une histoire vue dans une durée longue telle que nous la faisons dans l'histoire générale de l'Afrique?
Dans la longue durée, ce phénomène qui se passe sur moins de 2000 ans ne présente pas vraiment d'intérêt stratégique, scientifique, si vous voulez. Mais c'est des intérêts sociétaux et politiques importants, et on peut pas les négliger. Et c'est vrai que l'histoire consiste à établir les faits de la manière aussi rigoureuse que possible. Nous sommes aussi dans un monde connecté où une position prise quelque part a des implications ailleurs. Donc il y a des situations dans lesquelles on marche sur des œufs, parce que si l'on insiste énormément sur les implications de la traite des esclaves sur certains pays voisins du continent même, cela fâche les voisins. Il y a des zones de très grises sur ces questions de l'esclavage. Donc, pour être un peu en retrait, mais sans trahir la vérité, disons que la traite, appelons-la orientale, si vous voulez, a une durée beaucoup plus ancienne. Elle est beaucoup plus ancienne. La traite atlantique s'y est accrochée et a amplifié le phénomène tout en ouvrant un nouveau continent. Les statistiques du nombre de personnes impliquées dans ce mouvement sont des exercices scientifiques intéressants, mais c'est basé sur des présupposés. En supposant que pour capturer un esclave, on abat 3 ou 4 personnes. Donc, vous pouvez compter un esclave vaut 5 personnes qui ont été éliminées. Vous multipliez par un certain nombre par les décomptes de bateaux quand c'est possible à partir. Pour le 19e siècle, il y a d'assez bons, sur les British Parliamentary Papers, il y a d'assez bonnes données numériques sur le nombre de bateaux qui ont été impliqués dans la traite des esclaves. Et il est possible de faire des calculs approximatifs qui donnent une idée des flux de population et comment ces flux ont pu varier dans le temps. Mais se battre sur des chiffres sous prétexte que des chiffres de certains sont plus précis que d'autres, c'est des débats qui seront jamais résolus. Certains tendent à minorer l'impact démographique, d'autres à l'exagérer. Comme disent les Britanniques, acceptons d'être en désaccord, Mais le phénomène de l'esclavage et de la ponction démographique est absolument indiscutable.
Et en même temps, le phénomène de la résistance des esclaves africains dans les différentes parties du monde où ils ont été éparpillés est un phénomène également bien établi. Et justement, dans ce neuvième volume, pardon, qui est lui-même subdivisé en plusieurs volumes, on voit bien que entre ce qu'on appelait les révoltes des esclaves zanges en Mésopotamie et les révoltes, les insurrections des esclaves africains dans la Caraïbe, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, on a là l'impression qu'il y a une sorte de continuum de résistance de gens qui ont été arrachés à leur continent et qui, là où ils s'installent, de gré ou de force, continuent cette espèce de tradition de la résistance. Professeur Augustin Hall, l'histoire du temps présent, donc le premier volume s'est arrêté aux indépendances. Comment traiter l'histoire des 50, 60 dernières années de notre continent en la liant à l'histoire des diasporas africaines à travers le monde?
Et c'est probablement, paradoxalement, c'est la partie la plus difficile du projet, dans la mesure où les historiens n'ont pas le temps de digérer les sources pour pouvoir écrire une histoire qui ne soit pas très sensible. Plusieurs acteurs sont encore vivants. Donc, généralement, cela limite un peu l'accès à l'information, parce qu'il y a des lois sur les archives qui limitent l'accès aux archives entre 40 et 50 ans selon les pays. Il faut aussi éviter l'aspect journalistique qui est toujours embusqué quelque part, parce que les données, les événements sont très, très récents. Mais des historiens chevronnés ont des méthodes et qui leur permettent quand même de traiter les grands événements plus ou moins contemporains qui ont un impact très important. La libération de Nelson Mandela, l'accès au pouvoir en Afrique du Sud de l'ANC, la création de l'État de Zimbabwe, la libération, l'indépendance de l'Angola et du Mozambique et de la Guinée-Bissau sont des phénomènes pour le continent africain, des phénomènes récents extrêmement importants qui ont permis de changer la géopolitique du continent. Donc le nouveau volume intègre cette histoire récente du continent et essaye d'analyser les enjeux par rapport au monde. L'effondrement du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique a fait un monde unipolaire pendant un certain temps et qui est en train de redevenir multipolaire, et ces changements ont un impact fondamental sur les positions des diasporas dans le monde. Donc vous voyez, les enjeux sont extrêmement compliqués parce que le monde continue à bouger et l'histoire des temps présents est un véritable défi pour les historiens.
En même temps, ce n'est pas seulement notre travail, ce sont aussi des dynamiques sociales qui montrent que la mémoire de l'unité, la mémoire de la déportation, la mémoire des résistances reste extrêmement forte, notamment dans les pays de diaspora. Nous avons eu l'occasion de travailler beaucoup dans les pays latino-américains, dans la Caraïbe, notamment à Cuba, mais aussi en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où l'on constate que la mémoire de l'esclavage est bien conservée, mais ce qui est conservé aussi, c'est la mémoire des résistances à l'esclavage. Et beaucoup d'Africains ne savent pas que la première ou l'une des premières républiques dans laquelle ont été énoncées l'égalité entre les humains, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur origine, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la République de Palmarès au Brésil. Donc nous sommes là dans un temps de plusieurs siècles avant nous, où des dirigeants africains, hein, l'un d'entre eux s'appelait Nganga Nzumbi, ce qui dans les langues bantoues veut dire le féticheur Nzumbi, où il y avait des Européens, des Indiens, des Noirs, tous considérés comme égaux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les dynamiques de la démocratisation du Brésil aujourd'hui, sous le gouvernement du président Lula, le jour de la mort de ce chef Nganga Nzumbi, qui a été trahi apparemment par un de ses lieutenants, est devenu un jour férié. Et ce qui est très intéressant encore, c'est de voir que depuis la chute de Dilma Rousseff et du Parti du Travail, le pouvoir actuel tente à revenir sur ses acquis et à dire que on n'a pas à fêter la mort d'un noir parce qu'il y a aussi des blancs et des indiens qui ont été massacrés. Ça pose quand même la question des rapports entre l'histoire en tant que connaissance scientifique, la mémoire en tant que processus social et politique et la construction du vivre ensemble à l'échelle non seulement des États mais peut-être aussi à l'échelle du monde. C'est en fait l'une des des orientations et l'une des ambitions de l'histoire générale de l'Afrique.
Il s'agit en fait de suivre la revendication des droits civiques pour les diasporas, ou ce qu'ils appellent aujourd'hui les afro-descendants, qui luttent pour avoir des droits égaux dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud essentiellement. Comme tu l'as présenté, Ilikia, où le Brésil est une surprise pour toi, qui est un des amoureux du football jadis. Pour nous, le Brésil, c'était la démocratie raciale, c'était la couleur de la peau n'importait pas. Mais mon premier voyage au Brésil m'a fait littéralement déchanter, c'est-à-dire que le racisme ordinaire est présent au Brésil partout. Il y a eu des histoires d'un homme d'affaires noir très riche, mais qui, comme il allait à une fête et qu'il allait boire, n'a pas voulu conduire sa voiture. Et après la fête, il a voulu prendre un taxi, mais chaque fois que les chauffeurs de taxi voyaient, ils refusaient de s'arrêter. Et aujourd'hui, la lutte pour les droits civiques des Noirs du Brésil est plus que jamais fondamentale et importante. Et vous le savez certainement pas, mais c'est le gouvernement brésilien de Da Silva Lula qui a financé les premiers pas de ce tome 9 dans lequel le cœur, le navire amiral du projet, c'était le volume sur les diasporas africaines. Parce que l'enjeu, c'est de mettre à disposition de toutes les écoles, de tous les publics dans les pays où il y a diaspora, Caraïbes, Caraïbes, Amérique du Sud, Amérique du Nord, mettre à leur disposition ces résultats de la recherche scientifique pour non seulement se réapproprier leur passé, mais en même temps utiliser ce matériau pour des revendications de droits civiques qui sont toujours pas acquis et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud.
Alors il y a peut-être, pour finir, un élément qui pourrait nous réconforter, c'est que pendant longtemps, les écrivains qui nous invitent ici avaient l'impression d'être des contestataires face au pouvoir ou d'être en marge des pouvoirs ou d'être ignorés ou craints par les pouvoirs. L'une des choses intéressantes qui s'est passée au cours des 20 dernières années, c'est que les pouvoirs politiques de l'Afrique indépendante ont fini par prendre conscience de l'importance de l'histoire du continent, mais plus particulièrement de l'importance de l'histoire générale de l'Afrique. À titre de preuve, la conférence des États membres de l'Union africaine qui s'est tenue en 2006 à Khartoum, au Soudan, conférence qui a donc adopté la charte de la renaissance culturelle africaine, dont l'une des recommandations est justement l'idée selon laquelle, pour former les citoyens africains de demain, ce n'est pas à partir des slogans, à partir des combats plus ou moins confus, c'est, disent-ils, à partir de la connaissance de l'histoire. Et ils citent nommément l'histoire générale de l'Afrique comme la base la plus consensuelle pour former ces Africains de demain.
Oui, c'est tout un programme et c'est vrai que c'est par l'éducation que passe la formation des mentalités qui se projette dans un futur plus ou moins lointain. Donc, l'utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique vise effectivement à donner à la jeunesse africaine des outils d'appropriation de l'histoire du continent pour d'abord bâtir leur fierté d'être africain et constituer ainsi une sorte de projection vers le futur, vers un avenir plus ou moins prospère, plus ou moins pacifique pour la construction d'un continent de paix. Donc la formation à l'histoire, sans nier les conflits passés, sans nier tous les problèmes de voisinage, vise à assimiler cet aspect du passé pour le transformer en outil de construction d'un continent futur, prospère et pacifique.
Merci à vous, Augustin Hall, d'être venu à cette émission enregistrée à Bamako dans les locaux de l'Institut français à l'occasion des 10 années de la rentrée littéraire du Mali. Nous étions ici en compagnie de romanciers, de poètes et de la jeunesse africaine qui aura peut-être des questions à nous poser sur la manière dont nous écrivons l'histoire du continent et sur la question de savoir où va l'histoire de ce continent.
Cette émission vous a été présentée en partenariat